Bonsoir. Emmanuel Macron demande pardon à Josette Audin, la veuve de Maurice Audin, disparu en Algérie en 1957. Un geste fort du président qui reconnaît l'implication de l'État français dans ce drame. Le reportage de Jérôme Jadot et la réaction satisfaite de notre invité, le député communiste Sébastien Jumel. Emmanuel Macron qui annonce la création d'un revenu universel d'activité pour lutter contre la pauvreté. Les associations expriment leurs réserves sur ce nouveau dispositif. Nous verrons cela avec Annabelle Grelier. La Pologne mettra son veto à toute tentative de sanctions européennes contre la Hongrie. Viktor Orban peut compter sur le soutien indéfectible des conservateurs polonais. La correspondance à Varsovie de Thomas Giraudeau. Et puis ce nouveau rebondissement dans l'affaire Skripal. Les deux suspects recherchés par les Britanniques ont accordé une bien étrange interview à la télévision russe pour clamer leur innocence. Jean-Didier Revoin nous appellera de Moscou. C'est un moment important dans le travail de mémoire de la France sur la guerre d'Algérie. Emmanuel Macron reconnaît la responsabilité de l'État dans la disparition de Maurice Audin, mathématicien, militant communiste favorable à l'indépendance. Maurice Audin avait été arrêté par des militaires français en 1957 à Alger. Il avait 25 ans. La déclaration du chef de l'État reconnaît que Maurice Audin a été torturé puis exécuté ou torturé à mort. Le militant a été victime, je cite, d'un système institutionnel tué en Algérie par la France. Emmanuel Macron est allé remettre aujourd'hui le texte de cette déclaration à la veuve de Maurice Audin, Josette Audin, chez elle à Bagnolet. Jérôme Jadot a pu la rencontrer.
Dans son modeste appartement de banlieue parisienne, Josette Audin, 87 ans, est assise au fond de son fauteuil, toute frêle, petites lunettes cerclées, cheveux gris tirés vers l'arrière. Elle tient une coupe de champagne à la main, mais n'est pas dans l'effusion de joie après l'annonce qu'est venu lui faire le président.
Il aurait mieux valu que ça se passe avant, c'est sûr, mais c'est bien quand même une justice un peu tardive et qui sert plus à grand-chose. Mais bon, c'est mieux que rien.
Pendant une heure, Emmanuel Macron a pris le temps de lui expliquer le sens de sa déclaration. La fille et le fils de Maurice Audin sont là également, reconnaissants envers le chef de l'État.
On lui a dit qu'on le remerciait pour cette avancée politique historique importante. Pour ma mère, la question n'est pas complètement réglée puisque on ne sait pas exactement comment mon père a été tué. Mais malgré tout, dans sa déclaration, il appelle à des témoignages. Et donc, il n'est pas impossible que ça amène aussi à ça.
À la fin de la rencontre, Josette Audin a dit merci à Emmanuel Macron. Ne me dites rien, lui a répondu le président. C'est plutôt à moi de vous demander pardon.
À Jérôme Jadot. Alors, deux députés se sont particulièrement mobilisés pour obtenir cette reconnaissance de responsabilité. Le mathématicien Cédric Villani, élu de la majorité, et le communiste Sébastien Jumel. Sébastien Jumel qui est l'invité de ce journal. Bonsoir.
Bonsoir.
Sébastien Jumel, vous aviez solennellement demandé à Emmanuel Macron avec Cédric Villani de rétablir la vérité historique sur l'assassinat de Maurice Audin. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que le président a effectivement rétabli cette vérité ?
Oui, tout à fait. La déclaration présidentielle est un acte de la République sans ambiguïté qui reconnaît la responsabilité de l'État dans l'utilisation de la torture à des fins politiques, qui ouvre les archives pour que des historiens dans leur recherche de la vérité historique, passent leur œuvre et qui reconnaît et qui même exprime le pardon de la République à l'égard de la famille Audin, victime de cet assassinat injuste, assassiné parce que communiste, assassiné parce que indépendantiste.
C'est important cette demande de pardon formulée par le président de la République ?
C'est essentiel d'abord parce que ça récompense l'œuvre d'une vie, celle de Josette Audin, 87 ans, qui est une leçon de vie, qui force le respect, dignité, humanité, combativité. C'est important au plan historique parce que je pense que ça pose le socle, le ciment d'une République qui est capable de regarder son histoire droit dans les yeux, qui le fait d'ailleurs, moi j'insiste là-dessus, sans vouloir jeter de vinaigre sur les plaies d'histoire, qui pose le socle du ciment d'une réconciliation désormais possible.
Et pourquoi, selon vous, Sébastien Jumel, il a fallu attendre si longtemps pour cette reconnaissance ?
Je ne sais pas, parce que j'imagine que il y a de témoins présents, plus c'est facile. Il fallait aussi expliquer à l'armée la démarche pour ne pas qu'elle soit culpabilisante à l'égard de ceux qui ont servi avec le sens du devoir l'État français, en prenant d'ailleurs la précaution de dire que tous les soldats n'ont pas prodigué la torture en Algérie. Oui, ça a été long pour la famille communiste qui, dès le premier jour, dès le 11 juin 1957, avec l'humanité notamment, a œuvré pour que justice soit rétablie, pour que le crime, l'assassinat de Maurice Audin soit reconnu. Le temps est passé, mais ça n'en réduit pas la portée symbolique de ce jour.
C'est l'armée française en tant que telle qui est responsable de la mort de Maurice Audin ?
C'est la République, c'est l'État français qui est responsable, et la parole présidentielle engage cela. Ce serait trop facile de se décharger sur l'armée, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Encore une fois, ne pas verser de vinaigre sur les plaies de l'histoire, mais simplement reconnaître, regarder l'histoire en lucidité, en vérité historique, et poser, j'allais dire, les bases d'un dialogue désormais apaisé, non seulement avec l'Algérie, mais d'une manière plus large avec l'ensemble des colonies d'hier.
Justement, Sébastien Jumel, le député LR Julien Aubert estime qu'il faut une part d'oubli pour construire une nation. Il redoute une guerre des mémoires autour de la guerre d'Algérie. Qu'en pensez-vous ?
Je ne partage pas ce point de vue. Il faut, en démocratie, en république, et s'agrandit la patrie des droits de l'homme, faire la guerre contre l'oubli et permettre aux historiens, sans passion, sans affect, dans la quête de vérité, de permettre à la République française de se réconcilier avec sa propre histoire. C'est ça qui fait l'honneur de la France, c'est ça qui fait l'honneur de la République. Et moi, j'ai trouvé dans les propos de Joseph Audin, de la famille, beaucoup de dignité, pas de haine, mais au contraire le soulagement d'être en situation en France aujourd'hui, d'appréhender l'histoire avec cette dignité, cette lucidité.
La guerre contre l'oubli, c'est rendre hommage à toutes les victimes françaises et algériennes de la guerre d'Algérie ?
Évidemment, moi je n'oublie pas qu'il y a eu Pierre Vidal-Naquet, Henri Alleg, qui ont commencé ce combat avec force, conviction et expertise, que ce combat a été poursuivi par des historiens plus contemporains. Sylvie Thénault a joué un rôle considérable. Et puis, voilà, vous savez à quel point je combats le président de la République sur de nombreux sujets. Et je l'ai réaffirmé tout à l'heure, je le combattais hier, je le combattrai demain sur sa politique qui fait mal à la France. Mais aujourd'hui, dans la responsabilité qui est la sienne, dans la proximité à laquelle j'ai assisté, il a été à la hauteur de l'événement historique.
Et sur l'ouverture des archives sur les disparus français et algériens, c'est quelque chose d'important ?
Oui, et j'ai d'ailleurs entendu le président de la République dire qu'il avait sensibilisé son homologue, le président de la République algérienne, d'en faire de même pour qu'au bout du compte, le croisement des archives, le croisement des témoignages, l'œuvre des historiens de part et d'autre puisse non pas raviver les guerres, mais au contraire travailler à la paix durable, à une vision apaisée de l'histoire. Et c'est vital pour les jeunes générations, y compris celles qui vivent chez nous.
Sébastien Jumel, député communiste de Seine-Maritime, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Avant de se rendre chez Josette Audin à Bagnolet, Emmanuel Macron avait débuté sa journée en présentant son plan de lutte contre la pauvreté. 8 milliards d'euros en 4 ans pour venir en aide aux 8,8 millions de pauvres recensés par l'INSEE en 2016. Dans son discours prononcé au Musée de l'Homme à Paris, Emmanuel Macron avait prévu une surprise, la création d'un revenu universel d'activité à l'horizon 2020, un dispositif qui fusionnerait le plus grand nombre possible de prestations comme le RSA ou bien les aide au logement. Annabelle Grelier, vous avez assisté au discours du chef de l'État, discours qui n'a pas vraiment convaincu les associations.
Une petite surprise en effet, car de révolution copernicienne promise par le porte-parole du gouvernement, il n'y en avait pas après une heure et demie de discours. Toutes les mesures égrenées par Emmanuel Macron existent déjà.
C'était presque plutôt un rapport de stage de quelqu'un qui a découvert ce qu'était la grande pauvreté. C'est ce que nous vivons nous au quotidien dans les départements en essayant d'accompagner les personnes et les publics.
Jean-Luc Glaize, le président socialiste du département de la Gironde, au départ un peu déçu, jusqu'à ce qu'il entende le mot « universel ». Avec 18 autres présidents de département, il réclame justement une loi d'expérimentation sur un revenu de base universel.
D'abord, ce n'est pas tout à fait, si j'ai bien compris, un revenu universel. L'universalité, précisément, c'est qu'il serait versé à tout le monde. Donc ça n'est pas le cas. Ça tombe bien, ce n'était pas ce que nous souhaitions non plus. Nous avions un revenu dégressif. La grande différence avec ce que nous proposions, c'est l'inconditionnalité qui était proposée de notre côté, que lui ne propose pas et qu'il ne veut pas, puisqu'il y a condition, droit, devoir.
C'est donc un peu ça, sans être ça, mais n'empêche que tous ceux qui militent ou espéraient une mesure un peu novatrice avaient le sourire. Antoine Dulin, de l'association Habitat Humanisme.
On a eu un débat pendant toute la présidentielle sur la question du revenu universel. On réutilise un mot qui est intéressant, le revenu universel d'activité. Donc on sent que le président a changé. Moi, l'espoir que j'ai là-dessus, c'est comment on va pouvoir enfin, pour les 18-25 ans, les faire rentrer dans un dispositif universel.
Mais les enthousiastes pourraient vite déchanter. C'est la crainte de Didier Dugast de l'Association nationale des créateurs.
Il peut y avoir une contradiction avec l'obligation d'emploi sur deux offres qui ne seront pas discutables. Ça ne peut pas être compatible avec... Vous allez faire ce qu'on vous dit quand on vous le dit. Là, il y a quelque chose qui ne va pas.
Ce revenu universel d'activité va donc faire l'objet l'année prochaine d'un grand débat public et d'arbitrage technique. Il sera inclus dans le vote de la loi pauvreté prévue pour 2020.
Annabelle Grelier, merci. Alexandre Benalla, convoqué la semaine prochaine, le 19 septembre, au Sénat pour répondre à la commission d'enquête sénatoriale. L'ancien chargé de mission d'Emmanuel Macron avait dans un premier temps refusé de répondre aux questions des sénateurs, avant de comprendre qu'il ne pouvait pas se soustraire à cette convocation. Convoqué également le même jour, Vincent Crase, ancien salarié de La République En Marche. Les deux hommes sont mis en examen pour avoir molesté des manifestants le 1er mai dernier à Paris. Le procès des skinheads impliqués dans la mort de l'antifa Clément Méric touche à sa fin. L'avocat général de la cour d'assises de Paris a requis aujourd'hui 7 et 12 ans de prison contre les deux principaux accusés, Samuel Dufour et Esteban Murillo. La cour rendra son verdict demain. Viktor Orban est officiellement rassuré. La procédure de sanction contre la Hongrie lancée hier par le Parlement européen n'aboutira sans doute jamais, car la Pologne annonce aujourd'hui son soutien à Budapest. Les conservateurs au pouvoir à Varsovie mettront leur veto à toute tentative de sanction contre le Premier ministre hongrois. « Nous devons faire preuve de solidarité », a expliqué le ministre polonais des Affaires étrangères Jacek Czaputowicz. Thomas Giraudeau nous appelle de Varsovie.
La Pologne et la Hongrie peuvent toujours compter l'une sur l'autre. La première est elle aussi sous le coup de l'article 7 du traité de l'Union depuis décembre dernier en raison de sa réforme très controversée de la Cour suprême polonaise. Mais le pays ne risque pas grand-chose, il faut l'unanimité des États membres pour être sanctionné. Et la Hongrie le répète régulièrement, elle sera toujours là pour voter contre et soutenir la Pologne. Logique donc si celle-ci renvoie aujourd'hui l'ascenseur. Depuis l'arrivée au pouvoir du parti Droit et Justice à Varsovie en 2015, les deux gouvernements affichent leur proximité, reprise en main de la justice et des médias, conservatisme sur les questions sociales. Ils refusent tous les deux les quotas d'accueil de migrants et n'aiment pas beaucoup quand l'UE se mêle de leurs affaires internes. Le ministre de la Justice polonaise a ainsi qualifié le vote du Parlement européen sur la Hongrie comme une attaque contre la démocratie.
Thomas Giraudeau, correspondant en Pologne. La télévision russe a retrouvé les deux suspects de l'affaire Skripal, deux hommes recherchés par les Britanniques pour leur implication supposée dans la tentative d'empoisonnement de l'ex-espion russe en mars dernier à Salisbury. Londres affirme qu'il s'agit de deux agents du renseignement militaire russe. Les deux hommes ont clamé leur innocence dans une bien curieuse interview accordée à Russia Today. La correspondance à Moscou de Jean-Didier Revoin.
L'air dépité, le teint blafard, Alexander Petrov et Ruslan Boshirov ont été interviewés par Margarita Simonian, rédactrice en chef de la chaîne publique russe RT, diffusée hors des frontières du pays, qui n'a pas manqué de leur poser la question que tout le monde se pose.
Vous travaillez pour le GRU ?
Non, pas moi. Et vous ?
Non, moi non plus. Moi non plus.
Alors vous travaillez où ? Vous devez bien vivre de quelque chose.
Si nous parlons maintenant de nos affaires, alors...
Dites-nous quelque chose, que faites-vous ?
Pour résumer, nous sommes dans l'industrie du fitness.
Une réponse qui peine à sortir de deux hommes qui ont l'air plutôt tendus. Que faisaient-ils à Salisbury ? Ils visitaient une belle ville dont la cathédrale est connue dans le monde entier. Se sont-ils approchés de la maison de Sergueï Skripal ? Ils ne savent pas où elle était. Pourquoi l'ont-ils appelé sur son mobile pour parler maintenant ? Pour se défendre d'accusations injustes et qu'on les laisse tranquilles, car à les entendre, les deux hommes vivent un calvaire.
Si un jour on trouve les vrais empoisonneurs, j'aimerais qu'ils s'excusent devant nous. Au moins pour le fait qu'on parle de nous depuis une semaine, enfin, 5 jours, je suis perdu dans les dates. On ne peut pas sortir faire le plein de la voiture tranquillement.
Qui a empoisonné Sergueï Skripal ? Leur demande encore Margarita Simonian. Difficile à dire, répondent-ils. Au terme de 25 minutes d'entretien, on n'en sait pas plus sur l'affaire Skripal elle-même, si ce n'est que les deux suspects, comme la Russie, clament leur innocence.
Jean-Didier Revoin, Londres a vivement réagi à cette interview diffusée sur une télévision de l'État russe. La Russie se tourne en ridicule, affirme le secrétaire d'État aux affaires étrangères Alan Duncan. Alan Duncan qui demande aux deux suspects de venir au Royaume-Uni répondre aux questions des enquêteurs britanniques. On termine ce journal avec le temps. Demain, le soleil est de retour sur la plupart des régions, notamment dans le sud-est. Le matin, le ciel restera nuageux du sud-ouest au nord-est, avec quelques averses possibles sur les reliefs, mais les éclaircies s'imposeront l'après-midi. Les températures seront contrastées de 7 à 21 degrés pour les minimales du nord au sud, de 17 à 30 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.